RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de documentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Danemark introduit le monde de la diplomatie à la jeunesse indonésienne. L'authenticité et le caractère unique est un capital touristique indonésien. Trois ans de ligne de tourisme de l'Embata. Le ministère de la Santé intensifie le dépistage de la thalassémie. La semaine d'Indonésie 2018 à Shanghai cible 5 milliers de visiteurs. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassade de Danemark en Indonésie réintroduit le mode de la diplomatie aux jeunes en Indonésie par l'activité Ambassadeur One Day. Cette activité est la cinquième. La première a été tenue en 2013. À travers cette activité, un jeune homme élu a eu l'occasion de connaître directement l'activité quotidienne de l'ambassadeur danois en Indonésie et se sent directement à être l'ambassadeur pour une journée et visiter Copenhague au Danemark. L'étudiant de la faculté des droits de l'Université de Gajah Mada, Yogyakarta, Rudang Cecilia Pinem, est une personne qui a été choisie de participer à ses activités. Selon l'ambassadeur du Danemark en Indonésie, Rasmus Abilgrad Christensen, à Jakarta mardi, ses activités sont très importantes parce qu'il y a beaucoup de jeunes en Indonésie qui ne savent pas encore le monde de la diplomatie.
The purpose of that is to introduce diplomacy.
L'objectif est d'introduire la diplomatie aux jeunes indonésiens pour qu'il soit plus facile à comprendre. Je pense que beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas encore très bien le devoir d'être diplomate ou ambassadeur. Eh bien, c'est l'objectif principal. En plus d'être un ambassadeur pour une journée, Cecilia et le candidat précédent ont obtenu la chance de faire un voyage d'études au Danemark. L'ambassadeur Christensen a déclaré que la participation des jeunes comme a été faite par Cecilia, était très important parce qu'ils étaient les futurs dirigeants à l'avenir. Par conséquent, les jeunes devraient avoir une connaissance approfondie, beaucoup à apprendre du monde extérieur et ouvert d'esprit. L'ambassadeur Christensen encourage également tous les pays à travailler ensemble et apprendre de l'expérience de l'autre pays pour aller de l'avant. Le thème de l'ambassadeur One Day 2018 est la lutte contre la corruption. Le thème anticorruption a été choisi parce que l'éradication de la corruption est une priorité pour le Danemark en tant que le deuxième pays exempt de la corruption dans le monde. On coïncide également avec la conférence internationale de lutte contre la corruption qui se tiendra à Copenhague du 22 au 24 octobre. Le ministère du Tourisme a soutenu le festival de Trois Volcans Lembata 2018 qui a été organisé par le gouvernement de la Régence de Lembata Nusa Tenggara Est. Dans le discours d'ouverture de l'événement à Jakarta lundi, le député du développement marketing du ministère du Tourisme, Igede Pitana, a transmis son appréciation et la principale capitale qui fait une destination de qualité pour la Régence de Lembata. Si nous parlons du tourisme, il y a deux choses très importantes à faire pour devenir une destination de qualité. La première chose est l'authenticité. Je crois que nous avons connu tant de cultures originales existantes à Lembata qui ne peuvent pas être trouvées dans d'autres régions. Le second est l'unicité ou autre chose différente que les autres. Différents types d'art qui ont été montrés ne peuvent certainement pas être trouvés dans d'autres régions. Son tissu, son art, sa danse, musique sont très uniques. Encore une fois, l'unicité et l'authenticité sont des capitaux très forts pour développer le tourisme. Selon Pitana, le ministère du Tourisme est très aidé par la sensibilisation des gens et le gouvernement de la Régence Lembata qui ont été conscients de l'importance de l'agenda de certains événements culturels organisés par le gouvernement de la Régence de Lembata. Dans cet événement, le tissu traditionnel Lembata est représenté dans le défilé de mode, l'œuvre de Dian Upit qui a également animé l'industrie de la mode indonésienne. La Régence de Lembata Nusa Tenggara Est a une variété de tourisme. Ce potentiel du tourisme fait partie de trois régions de développement du tourisme ou nommées trois anges de ligne du tourisme de Lembata. C'est ce qu'a déclaré par la Régence de Lembata Eliasar Yenci Sunur lors du lancement du festival de Trois Montagnes le 7 mai 2018 à Balirum Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta.
RPJMD Kabupaten Lembata, itu RPJMD tahun 2017-2022.
Le plan régional à moyen terme de la Régence de Lembata 2017 jusqu'à 2022 a placé le tourisme comme le secteur principal avec deux piliers de développement du tourisme qui comprennent le tourisme et le développement du tourisme avec le portefeuille de produits touristiques qui a un concept de 3A, tels que attraction, aménitas et accessibilité, qui se divisait en trois régions de développement appelées Triangle Line Tourism, qui intégrait et mettait l'accent sur le développement du marché et la promotion du développement de la destination ainsi que l'industrialisation et l'investissement. Au cours du lancement du festival de Trois Montagnes Lembata, le gouvernement de Régence Lembata a également lancé un événement calendrier de Lembata qui peut être un guide pour les touristes nationaux et étrangers à visiter Lembata au bon moment. Cette année, 19 séries d'événements du festival de Trois Montagnes sont organisées pour la première fois à Lembata du 22 au 29 septembre 2017. Cette année, 9 séries d'événements du Festival de Trois Montagnes sont organisées pour la première fois à Lembata du 22 au 29 septembre. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le 8 mai est célébré comme la Journée mondiale de la thalassémie. Le thème de 2018 est « Ensemble pour un meilleur avenir ». Le secrétaire de la Direction générale de la prévention et du contrôle de maladies, Dr. Ashikin Iman Hidayat Dahlan, a déclaré que la maladie de thalassémie ne pouvait pas encore être guérie, mais peut être évitée en empêchant le mariage entre les porteurs du trait thalassémique. Par conséquent, la détection précoce par le dépistage est très importante pour connaître le statut d'une personne, si la personne est porteuse de thalassémie ou non. Lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta lundi, Le ministère de la Santé formera le règlement pour améliorer la sensibilisation et augmenter l'activité de dépistage de la thalassémie.
Bahwa merupakan salah satu program yang penting dan
c'est l'un des programmes importants et peut casser la chaîne du déclin. Cela signifie que lorsque nous faisons le meilleur dépistage, nous pouvons trouver un transporteur d'outrée. Il est donc essayé de ne plus se rencontrer avec des porteurs d'outrée thalassémique. En raison de l'importance de cette question, le ministère de la Santé est en train de préparer des programmes à l'étranger. C'est une nécessité. Selon Ashikin Iman Hidayat Dahlan, à la Journée mondiale de thalassémie 2018, le ministère de la Santé a organisé la socialisation et le dépistage de thalassémie aux 240 écoliers à Pandeglang et Garut et fera la socialisation et le dépistage de thalassémie à l'école dans l'ouest de Jakarta en mai 2018. À la même occasion, Dr. Pustika Amalia Wahidayat, à partir de l'hôpital Cipto Mangunkusumo, a déclaré que l'Indonésie était le pays avec la ceinture de thalassémie. Cela veut dire que les personnes dans la ceinture de thalassémie devraient être examinées. Selon les recherches de base de la santé en 2007, 8 provinces avaient une prévalence plus élevée que la prévalence nationale, entre autres la province d'Aceh, Jakarta, Sumatera du Sud, Gorontalo, les îles de Riau, Nusa Tenggara West, les Moluques et la Papouasie occidentale. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a coopéré avec le ministère du Tourisme et le gouvernement provincial de Jakarta. La Chambre indonésienne et le commerce en Chine organisent la Semaine d'Indonésie 2018 ou INAWIC à Shanghai, en Chine, du 4 au 13 mai 2018. Le consulat junior d'information socio-culturelle du consulat général indonésien à Shanghai, Radityo Panjaitan, au collaborateur de la Voix de l'Indonésie, Kevin Zhao, a récemment expliqué que la Semaine d'Indonésie 2018 était organisée pour présenter l'Indonésie aux Chinois à Shanghai et dans les environs. Les différents types d'activités sont organisés comme un défilé de mode. Cet événement est un événement qui est mené pour promouvoir les cultures indonésiennes, les produits de l'Indonésie auprès des Chinois, notamment à Shanghai et dans les environs. Cet événement contient entre autres du défilé de mode et des danses indonésiennes. Il fait partie de l'Indonésie incorporée pour promouvoir l'Indonésie dans le monde, notamment en Chine. Radityo Panjaitan a également déclaré que la mise en œuvre de la deuxième semaine de INA pour cette période serait visitée par 50 000 visiteurs et augmenter le nombre de touristes chinois dans ce pays. L'année dernière, au moins 30 000 personnes ont visité INAWIC 2017. Selon Radityo Panjaitan, il est prévu que 30 millions de touristes chinois visitent l'Indonésie en 2018. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre Vladimir Poutine, quatrième président de la Russie. Vladimir Poutine est réélu le président russe après avoir remporté les élections du 18 mars. Poutine a prêté serment lundi le 7 mai 2018 lors d'un événement assisté au moins 5000 personnes au Kremlin. En entrant dans son quatrième mandat, Vladimir Poutine a réitéré son engagement à répondre aux résultats de l'enquête du pays qui montre qu'il existe encore un large fossé entre les riches et les pauvres dans le pays. Ses opposants, qui ont organisé une manifestation contre la victoire de Poutine durant sa dernière présidence, ont déclaré que Vladimir Poutine avait gouverné la Russie en tant que tsar ou roi dans le passé. En revanche, les partisans et les électeurs, en plus de saluer son succès dans la direction de la Russie, croient également que Vladimir Poutine, maintenant âgé de 65 ans, sera en mesure d'accroître le rôle de la Russie sur la scène internationale. Sa victoire aux dernières élections a fait de Vladimir Poutine le président russe pour la quatrième fois. Malgré une absence ponctuelle, Vladimir Poutine occupe la première place de la Russie depuis 18 ans. Poutine a été président de la Russie en 2000 et a été élu pour la dixième fois en 2004. Parce que la loi interdit à un président de servir plus de deux mandats consécutifs, en 2008, Poutine a démissionné. Il est ensuite devenu premier ministre sous le président Dmitri Medvedev. Après avoir exercé les fonctions de premier ministre, Poutine a de nouveau se présenté le poste de président et a été élu aux élections de 2012. Il était en poste jusqu'en 2018, date à laquelle il a été réélu avec 76% des voix aux élections. Pour le succès de Poutine à devenir président pour la quatrième fois, le président américain Donald Trump aurait félicité. Malgré son gain de 76% des voix, certains Russes ont manifesté leur opposition à Poutine en manifestant au moins dans 19 villes. La police a arrêté au moins 1000 manifestants avant l'inauguration. Si les espoirs et l'optimisme de la plupart des citoyens russes seront réalisés, où les préoccupations de ceux qui s'opposent à lui deviendront une réalité, seul le temps le montrera. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteur, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement assassinat d'Aldo Moro. Le cadavre d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne italienne, est retrouvé à Rome dans le coffre d'une voiture. L'ancien premier ministre et candidat à la présidence de la République a été enlevé le 6 mars par le groupe terroriste d'extrême gauche, les Brigades Rouges. Celui-ci réclamait la libération de 13 prisonniers. La police italienne, grâce aux dénonciations de militants repentis, parviendra à arrêter de nombreux brigadistes dont les activités cesseront dans les années 80. Notre information est sur Nelson Mandela, élu président d'Afrique du Sud le 9 mai 1994. Le 9 mai 1994, Nelson Mandela a été officiellement assermenté comme premier président noir dans son pays, l'Afrique du Sud, ainsi démolir la politique d'apartheid qui favorise les Blancs. F.W. de Klerk a été nommé vice-président et le gouvernement d'unité nationale multiraciale a été formé. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Sukhoi Superjet 100 s'est écrasé sur le Mont Salak à Bogor, Java West le 9 mai 2012. Il s'est écrasé lors d'un vol de démonstration au Joyflight. Sukhoi Superjet 100 avion a décollé de l'aéroport Halim à Jakarta à 14h12 en transportant 45 personnes. Mais peu de temps après, l'avion a disparu des écrans radar à une altitude de 1900 mètres. Enfin, le 10 mai 2012, les pilotes Sukhoi Superjet 100 ont été vus dans les falaises du Mont Salak à Bogor. Sukhoi Superjet 100 avion s'est écrasé sur une falaise rocheuse sur le Mont Salak. Le crash de l'avion a fait 45 passagers sont morts. Sur la base des résultats d'une enquête du comité de la sécurité NTSC, Sukhoi Superjet, l'accident de Sukhoi Superjet dû à une erreur humaine. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le ministère indonésien du commerce envoie une équipe de formation à l'exportation et l'importation en Afghanistan. Le ministère du Commerce a organisé une formation sur l'exportation et l'importation pour les hommes d'affaires afghans à Kaboul, en Afghanistan. L'événement intitulé « Formation à la procédure d'importation et d'exportation » s'est tenu du 7 au 9 mai. Le ministère du Commerce espère que cette formation contribuera à améliorer les relations commerciales et la balance commerciale entre l'Indonésie et l'Afghanistan dans l'avenir. Le Centre indonésien de la formation à l'exportation et l'importation de la Direction générale du développement national des exportations du ministère du Commerce a organisé cette formation en tant que programme de renforcement des capacités en synergie avec l'ambassade de la République d'Indonésie à Kaboul. Cette formation encourage les hommes d'affaires afghans à coopérer avec des hommes d'affaires indonésiens. Le matériel de formation visait à améliorer la balance commerciale entre les deux pays à travers des activités d'exportation et d'importation. En outre, la formation fournit également des connaissances sur le commerce international aux entrepreneurs. Il a été dit par le directeur général du développement national des exportations, Arlinda, à différentes occasions à Jakarta lundi. La formation à l'import et d'export en Afghanistan et le suivi de la visite bilatérale du président indonésien Joko Widodo en Afghanistan en janvier pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Cette formation est également une forme de soutien du président indonésien dans les efforts de créer la paix au peuple afghan. 30 participants ont participé à cette formation. Les participants sont les hommes d'affaires afghans qui veulent participer aux activités d'import-export avec l'Indonésie et des représentants d'agences gouvernementales afghanes. Cette formation à l'exportation et l'importation est également l'un des moyens utilisés par l'Indonésie pour augmenter les exportations vers les pays d'exportation non traditionnels. La valeur des exportations de l'Indonésie vers l'Afghanistan en 2017 a atteint 20,2 millions de dollars américains, alors que la valeur d'importation indonésienne en provenance d'Afghanistan en 2017 a été enregistrée à 29 000 dollars américains. Selon Arlinda, les entrepreneurs en Indonésie ont une excellente occasion d'augmenter les exportations vers l'Afghanistan afin d'encourager une plus grande croissance économique. L'un d'entre eux est vu par le nombre d'acheteurs afghans qui ont visité Trade Expo Indonesia en 2017 jusqu'à 266 personnes. La visite de l'acheteur afghan a abouti à des transactions commerciales s'élevant à 64 000 dollars américains. Les principaux produits préférés sont entre autres les appareils électroménagers, les produits de bois, les produits à base de plantes et les produits de papier. Les intervenants dans cette formation provenaient des praticiens dans le domaine de l'exportation et l'importation. Le matériel qui est présenté comprend l'introduction de produits potentiels de l'Indonésie et l'Afghanistan, un examen des activités d'import-export, la procédure et les documents d'import-export, le système de paiement de l'import-export, les procédures de transport et la gestion du cargo d'import-export, la réglementation du commerce international, le calcul et la détermination des prix à l'exportation, l'exercice de remplir des documents d'exportation et aussi l'histoire de succès de l'exportateur. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons la tradition de Nyangku au village de Panjalu, Java West. Restez à l'écoute. La cérémonie traditionnelle Nyangku est une tradition qui existe depuis le royaume de Panjalu. Jusqu'à présent, la tradition est toujours menée chaque année pour les Zhang de Panjalu. La tradition Nyangku est réalisée lundi ou jeudi du mois de Maulud ou Rabiul Awal dans un calendrier islamique. Le but est de commémorer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui tombe sur le mois de Rabiul Awal. Par ailleurs, la tradition Nyangku est menée pour commémorer le service de Prabhu Sang Hyang Borosungora, le roi de Panjalu qui était un disciple et répandre ses enseignements de l'islam à Panjalu. Serviteur, Nyangku vient de la langue arabe Yanko, signifie nettoyer. Mais les Sundanais prononcent le mot Yanko en devenant Nyangku. Le but de la tradition est de nettoyer les objets patrimoniaux qui appartenaient au royaume de Panjalu. Dans le passé, la famille de la descendance de Panjalu a fourni des ingrédients pour la cérémonie de Nyangku, comme le riz rouge qui doit être épluché à la main. Le riz rouge a été utilisé comme ingrédient pour faire de tumpeng ou des offrandes. Tumpeng est un plat de riz en forme de cône avec des plats supplémentaires de légumes et de viande. Pour éplucher le riz rouge non décortiqué, a été commencé depuis le premier Maulud jusqu'à un jour avant la mise en œuvre de la cérémonie. Chers auditeurs, le rituel de Nyangku est débuté en faisant un pèlerinage au cimetière du roi à Situlengkong, Panjalu. La cérémonie commence habituellement à 7h30, heure locale, en sortant les objets patrimoniaux de l'endroit nommé Bumi Alit. Ensuite, les objets patrimoniaux sont transportés en étant tenus par la descente du roi de Panjalu à Nusa Gede. En arrivant à Situlengkong, les porteurs des objets patrimoniaux qui portent des vêtements muslims et sundanais traversent en bateau vers Nusa Larang. Ensuite, les objets patrimoniaux sont paradés dans un petit bâtiment à Nusa Larang. Les porteurs des objets patrimoniaux sont accompagnés d'un rythme de tambourin et de sholawat ou de prière sur la scène principale où la cérémonie est tenue pour nettoyer les objets patrimoniaux. Ainsi, les objets patrimoniaux sont mis sur un matelas spécial. Et an par an, les objets patrimoniaux commencent à être ouverts à partir de son emballage. Ensuite, ils sont nettoyés immédiatement en utilisant l'eau de cette source d'eau et ajoutée avec de l'eau de chaux. Laver des objets patrimoniaux commence à partir de l'épée de Prabhu Sanghyang Borosngora. Après cela, il se poursuit avec les autres objets patrimoniaux. Après être lavés, ces objets héritages sont enduits d'huile de noix de coco spéciale. Et puis, ils sont enveloppés à nouveau avec de jeunes feuilles de cocotier et enveloppés à nouveau avec cette couche de tissu blanc et attachés avec du fil. Ensuite, ils sont séchés en utilisant de la fumée d'encens et en étant défilés pour être stockés à nouveau chez Pasucian Bumi Alit. Chers auditeurs, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui avec le titre La tradition Nyanku au village de Panjalu, Java West. Demain, nous nous retrouverons avec l'autre sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Alamat Rumah. Je répète, Alamat Rumah, ou en français, l'adresse de domicile. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Alamat Rumah » ou en français « L'adresse de domicile ». L'emplacement est à l'intérieur de la zone du temple Prambanan. Tony ira chez Joko. Il demande l'adresse de domicile de Joko.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke. Okay. Besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Après avoir écouté la conversation, je vais présenter le vocabulaire, les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Rumahmu. Rumahmu. En français, votre maison. Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? Ou en français, où est votre adresse de domicile? Jalan Garuda nomor 5. Jalan Garuda nomor 5. Rue Garuda numéro 5. Besok aku ke sana. Besok aku ke sana. En français, demain j'y vais. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya. En français, j'attendrai. Pour trouver l'adresse de quelqu'un, vous pouvez demander di mana alamat rumahmu? Je répète, di mana alamat rumahmu? Ou en français, où est votre adresse de domicile? Si vous voulez connaître l'adresse du bureau, demandez di mana alamat kantormu? Je répète, di mana alamat kantormu? Ou en français, où est l'adresse de votre bureau? Pour répondre à cette question, comme par exemple, dites Jalan Garuda nomor 5 Sleman. Jalan Garuda nomor 5 Sleman. En français, Rue Garuda numéro 5 Sleman. Un autre exemple avec une phrase complète. Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2 Senayan, Jakarta. Je répète. Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2 Senayan, Jakarta. En français. Mon adresse est la rue Aster numéro 2 Senayan, Jakarta. Regardez les conversations suivantes. Tony, di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? En français, où vivez-vous? Joko, di Yogyakarta. Di Yogyakarta. En français, à Yogyakarta. Tony, di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? En français, où est votre adresse de domicile? Joko, Jalan Garuda nomor 5 Sleman, Yogyakarta. Jalan Garuda nomor 5 Sleman, Yogyakarta. En français, Rue Garuda numéro 5 Sleman, Yogyakarta. Dans ce dialogue, vous entendez le mot rumahmu. Le mot mu est le pronom de possession et le raccourcissement du mot kamu. Rumahmu est la même que rumah kamu, ainsi que la forme ku est le pronom de possession et le raccourcissement du mot aku. Rumahku est la même que rumah aku, et aussi la même que rumah saya. Pour mieux comprendre cela, étudiez l'usage des pronoms possessifs en langue indonésienne. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de conversation encore une fois.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal dans la langue indonésienne à notre adresse email à voi@voinews.id. Je répète, voi@voinews.id. Il y aura un prix attrayant pour les expéditeurs sélectionnés. L'exercice consiste à décrire un lieu touristique dans votre pays en mentionnant le nom du pays, le nom du site touristique, l'emplacement et la météo à cet endroit. Comme par exemple, Selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Merci à tous et au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de Vidi Aldiano. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, voici la première chanson chantée par Vidi Aldiano intitulée « Tak sejalan » ou en français « Pas dans la même ligne ». Bonne écoute!
Nyatanya tak sejalan, nyatanya tak sejalan.
Harapan saja, nyatanya
tak sejalan, tak sejalan.
harapan saja. Tuhan mengatur jalan hidup manusia. Berusaha kita harus terus percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan. Ku yakin kaulah yang membuatku bahagia. Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Oh, ingin bersama denganmu selamanya. Namun nyatanya kau dengannya. Harapan kini hanyalah harapan saja. Harapan saja. Oh. Ku yakin kau lah yang membuatku bahagia. Kadangkala yang lain tak dapat ku percaya. Keinginan hati terus aku kejar.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Nyatanya tak sejalan.
Oh, oh, oh. Ingin bersama denganmu selamanya. Namun nyatanya kau dengannya. Harapan kini hanyalah oh, harapan saja. Mungkin ini waktu untuk kita berhenti berharap. Berhenti berharap meski hati ini ingin bersama denganmu. Denganmu selamanya. Harapan saja, semua tak sejalan.
Chers auditeurs, voilà la chanson s'intitule Tak Sejalan ou Pas dans la même ligne. C'est le dernier single sorti par Vidi Aldiano au début avril en 2018. Ces paroles parlent de l'espoir de quelqu'un qui veut vivre avec son idole du cœur. Cependant, cet espoir a disparu parce que son idole était déjà avec l'autre. Ta Sejalan est l'une de ses chansons écrites par Vidi Aldiano quand il était en vacances aux États-Unis. Selon Vidi Aldiano, cette chanson basée sur son expérience de regarder une performance musicale sur Broadway qui a réussi à toucher le public. Pour cela, Vidi voulait créer la musique similaire par cette chanson. Chers auditeurs, ensuite, écoutons la chanson s'intitule « Définisi Bahagia » ou en français « Définition du bonheur » par Vidi Aldiano, collabore avec Andy Rianto. Bonne écoute!
Debar kencang bergema di dada tiap kali jumpa dirinya. bercampur semua rasa yang ada, dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Debar kencang bergema di dada, dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Kan ku petik bintang di langit ketujuh, asalkan hati memang setuju. Pada hatimu ku terjatuh, ajaklah hatiku menari hingga tiada sedih di hati. Jadilah sebuah definisi bahagia yang selalu ku nanti. Aku harap engkau mengerti, kalau yang selalu ku nanti, hadirkan bahagia di hati.
Chanson Définition Bahagia ou Définition du Bonheur par Fidi Aliano collabore avec Andy Rianto. La chanson est inspirée par les gens les plus proches de Fidi Aliano. Ce sont des amis, des membres de la famille et même des producteurs que Fidi rencontre souvent. Cette chanson a été publiée en deux versions. La nuance de la première version est la joie et l'excitation, tandis que celle de la deuxième version, réarrangée avec Andy Rianto, est plus solennelle. Dans l'industrie du divertissement en Indonésie, Fidi Aliano a subi divers changements, soit en termes de musique et d'apparence. Il travaille non seulement devant l'écran en tant que chanteur et acteur, mais il a également essayé de devenir un producteur de musique. Par son label, VR Records, Fidi Aliano veut réaliser son rêve de devenir un homme d'affaires. Mais bien sûr, Fidi n'arrêtera pas de divertir les mélomanes indonésiens. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine musical sur Fidi Aliano aujourd'hui. pour la terminer, je vous donne des chansons dont les titres Hingga Nanti ou Jusqu'à plus tard, qui est chanté par Vidi Aliano avec Andine, est Terbenar ou en français Plus vrai. Bonne écoute et à la prochaine!
Saat ku tuliskan namamu di hati, takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku. Detak di jantungku hingga nanti lama langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kau lupa cinta kita yang kan ku ingat selalu.
Ku sisipkan kata minta dalam doa hadirmu
kan
tetap ada,
tak akan
de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id FRENCH.
Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah memang benar
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/FRENCH.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4S5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.